Alimentation sous toutes ses formes, une émission réalisée par les élèves de Bac Pro 2e année de la MFR de l'Athlète.
Bonjour. Chaque année, des millions de personnes meurent de faim dans le monde. Les pays africains, comme le Soudan et le Niger, sont particulièrement touchés. Cette émission a pour but de sensibiliser la population sur les inégalités des différentes répartitions des richesses alimentaires dans le monde. Nous aborderons notamment dans cette émission les thèmes du commerce équitable, de l'agriculture traditionnelle et de l'équilibre alimentaire et le gaspillage. Que pense la population de l'alimentation dans le monde ? Des passants ont été interrogés sur le commerce équitable et la famine. Un micro-trottoir réalisé par Cassandra et Céline.
Il existe des inégalités dans la répartition des richesses alimentaires dans le monde. Comment sensibiliser la population de notre région sur ce sujet ? Nous avons réalisé un micro-trottoir et nos questions portaient sur le commerce équitable et la famine dans le monde. Nous sommes allés à la rencontre des commerçants et des passants sur les marchés de Marcigny et l'Athlète.
Pouvez-vous nous donner une définition du commerce équitable ?
Commerce équitable, les producteurs sont payés normalement pour ce qu'ils produisent. Voilà, il y a un prix minimum, je pense, pour qu'ils gagnent leur vie.
Ce sont des produits qui viennent des pays pauvres qui viennent ici en France et qui sont vendus par les commerçants ici.
Déjà, il faudrait que tout le monde mette ses étiquettes et que tout le monde soit à peu près pareil, quoi. Il y a trop d'abus dans le commerce. Il y en a qui vont par exemple marquer sur une étiquette des produits qui n'ont rien à voir.
C'est équitable, là, c'est travailler avec certains pays africains, certains pays étrangers là, et acheter certains de leurs produits, c'est ça. Oui. Voilà, c'est privilégier les produits du commerce équitable. Voilà.
Alors d'après moi, le commerce équitable, c'est faire travailler des agriculteurs dans des pays sous-développés, pauvres. Nous en France, on vend leurs produits chers, assez chers, plus chers que les nôtres, pour leur donner de l'argent et leur donner la possibilité de vivre correctement.
Partager les bénéfices entre les exploitants, les producteurs et les revendeurs.
Quels sont les pays les plus touchés par la famine ? Pensez-vous qu'il y a d'autres continents et d'autres pays touchés par la famine ?
Il me semble que c'est tout ce qui est Afrique, le continent africain, notamment du sud et un peu du nord. Ouais. Et puis après, il y en a d'autres en Europe, mais du côté de l'Asie, un truc comme ça aussi, non ?
L'Amérique latine.
Les pays africains.
C'est pas moi, c'est plus ces pays d'Afrique et tout comme ça, nous, encore.
Alors, oui, c'est les plus touchés par la famine, hein, de toute façon, il n'y a pas de... des exemples, on a tout ce qui est en Afrique du Sud, etc. Quoi.
Quelle serait la solution pour que personne ne meure de faim ?
Que tout le monde ait du travail.
Faut partager, faut donner aux gens à manger, aux gens qui ont faim. Ouais, la solution, c'est de partager.
Alors, la solution, elle est pas simple, hein, parce que on a des pays comme la France, comme les États-Unis, qui produisent au maximum et qui gardent même leur surplus, hein, ou alors qui le vendent après, quoi. Mais s'ils pouvaient partager les choses, c'est sûr que ça rangerait bien. Mais malheureusement, il faut des pays pauvres et des pays riches.
Je pense d'abord qu'il faudrait un petit peu que la météo soit de la partie déjà, parce que c'est vrai que dans les pays sous-développés, quand il y a des tsunamis, des trucs comme ça, les gens ils sont inondés, il ne peut plus avoir de culture, déjà rien que là. Hein. Et puis le manque de travail, le manque d'argent, tout s'enchaîne, ça fait qu'il y a beaucoup de malheureux dans le monde entier, hein, même en France. Hein, je veux dire,
tout le monde puisse travailler.
Il faudrait déjà que les gens soient un peu moins égoïstes et qu'ils apprennent à partager. Parce que je pense qu'il y a certains pays, entre autres le nôtre, qui a beaucoup trop de choses par rapport à d'autres. Trouver des solutions, c'est peut-être un peu plus difficile.
Alors là, il y a sûrement des solutions, mais c'est pas facile à mettre en place. Voilà ce que je peux dire. Hein, on a de l'excédent de nourriture en France, et puis on a des gens chez nous qui ont faim et qui vont aller au resto du cœur. Alors, c'est pas évident. Disons qu'on a... On a nos agriculteurs qui se plaignent. Je pense que si on en prenait leurs produits, tout l'excédentaire, qu'il y aurait déjà pour nourrir certaines personnes qui ont faim.
Il y en a plein de solutions. Encore faut-il avoir de la volonté, c'est tout, quoi. Il y en a des solutions. On est en surplus. Nous, en Europe, on a de la surproduction. On jette des millions de tonnes de blé par an. Mais c'est mal réparti, tout simplement.
Bah, je pense qu'il y a un point de vue financier aussi. Il y a des pays qui gagnent énormément d'argent, qui vendent très cher leur matière première, et il y a des pays qui n'y arrivent pas. C'est pour ça que souvent on aide surtout ces pays africains, puis qui, je pense, qu'ils ne sont pas encore assez modernisés pour cultiver. Ce qu'il faudrait d'abord, c'est leur apprendre à cultiver eux-mêmes et apprendre à travailler eux-mêmes sans compter toujours sur les pays étrangers.
Alors pour qu'elles soient plus égales, bah justement, il faudrait que les riches donnent plus aux pauvres.
Selon vous, 6 000, 16 000 ou 26 000 enfants meurent chaque jour dans le monde?
16 000.
26 000. Alors là, actuellement, il doit en mourir beaucoup, parce qu'avec Haïti, le problème qu'il y a eu, je pense, je ne sais pas, je mettrais des milliers. Ah oui, forcément des milliers, oui.
1 000 par jour?
1 000.
10 000.
Je pense quelques milliers.
Selon vous, y a-t-il 1, 2 ou 3 repas par jour en Afrique? À quel moment de la journée le prennent-ils?
Un repos.
Oh, 2.
Peut-être 2.
La moitié d'un? Il mange pas.
Ah, il y en a un.
Donc c'est un repas tous les 3 jours, je pense.
1.
Pas forcément tous les jours, ça dépend quel pays en Afrique, mais il y a beaucoup de pays africains, je pense qu'on ne mange pas tous les jours.
Ben, je dirais plutôt par semaine, hein, parce que là-bas, ça doit se chiffrer à pas grand-chose. Hein. Je ne sais pas, moi, par jour, par famille, un c'est énorme pour eux, et c'est pas suffisant non plus. Hein.
Ces micro-trottoirs ont été réalisés sur les marchés de Marcigny et Laclette.
Le commerce équitable bénéficie surtout aux agriculteurs des pays sud-américains. Des professionnels agricoles français interviennent dans les pays en voie de développement. Monsieur Gauthier parle de son association qui œuvre dans ce domaine. Une interview réalisée par Samia et Céline.
Il existe en France plusieurs associations qui interviennent dans les pays en voie de développement. C'est le cas de l'association AFDI de Saône-et-Loire et de Franche-Comté. Celle-ci intervient dans les pays comme le Cameroun, Colombie, Tchad et Cambodge. Plus de 6000 militants se sont engagés dans les AFDI régionales et départementales. C'est un secteur prioritaire pour lutter contre la faim et la pauvreté. Monsieur Gauthier, responsable de la section de Saône-et-Loire, nous décrit cette association.
C'est une association agricole qui est née sous l'impulsion des grandes organisations agricoles françaises, le syndicalisme majoritaire, donc la FNSEA, les jeunes agriculteurs, les chambres d'agriculture et le mutualisme agricole près les grandes sécheresses au Sahel, et qui avait pour but, les paysans français se sont dit à l'époque, c'est quand même pas possible que l'association se décline ensuite dans des structures juridiques régionales, et donc AFDI Saône-et-Loire fait partie de la structure juridique AFDI Bourgogne et Franche-Comté. Et après, dans les sections départementales, ben, c'est un ensemble de bénévoles qui sont à la fois des agriculteurs. Et ces retraités ou actifs du milieu para-agricole sont très utiles dans le réseau parce qu'ils permettent d'apporter des compétences très précises pour aider les paysans du Sud à monter leurs organisations agricoles.
Quels sont les objectifs de l'association?
Si on reprend historiquement, je dirais que l'association était beaucoup dans le transfert de compétences, c'est-à-dire que les paysans français pensaient à l'époque que c'est en aidant les paysans, en particulier en Afrique, puisque les agriculteurs français pensaient que c'est en aidant les paysans de ces pays à mettre en place des investissements, style aider à creuser des puits ou aider à faire des fours solaires pour sécher leurs marchandises, qui pouvaient aider les paysans de ces pays à améliorer leurs conditions de vie, à améliorer leur niveau de vie. Il y a eu une réorientation des objectifs de l'association qui est surtout d'aider par des échanges paysans, des rencontres entre des paysans du Nord et du Sud, les aider à se prendre en main et à monter des organisations agricoles qui leur servent à résoudre les différents problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Voilà donc les grands objectifs. Donc au Sud, accompagner les paysans à monter des structures agricoles, et au Nord, on est clairement, on essaie de faire du, je ne vais pas dire du lobbying, mais au moins de la sensibilisation, de l'éveil aux problèmes que rencontrent les paysans du Sud.
Vous nous parlez de l'échange paysan. Comment se déclinent les missions sur le terrain?
très très concrètement, la philosophie générale d'AFDI, c'est est basée sur les échanges paysans. L'échange peut se traduire de différentes façons. Ça peut être donc nous directement qui allons en mission dans les pays qui nous accueillent, et notre partenariat avec prévoit environ 4 missions, 4 personnes qui vont passer entre 8 et 10 jours dans le sud-ouest malgache pour justement discuter avec eux, essayer d'avancer avec eux sur leur problématique. Et donc sur le partenariat, on a eu des financements assez importants à une époque de la coopération française, puis des financements de l'Union européenne.
Vous venez d'évoquer vos partenaires financiers. Travaillez-vous avec d'autres partenaires ?
Notre partenaire principal, c'est la Maison des Paysans, qui est une organisation de paysans malgaches qui a compté jusqu'à environ 4 500 à 5 000 membres, 5 000 familles qui étaient adhérentes à cette organisation agricole. À la Maison des Paysans, il y a toute une action de commercialisation de leurs produits. Et donc, on a aidé les paysans malgaches à monter des petits groupements. Ils se mettent à 7 ou 8 et ils font un stockage. Et donc, ils attendent que le cours des matières, que le cours de ces matières, qui sont en général très très bas après la récolte parce que il y a abondance sur les marchés, ils les stockent et ils attendent que les cours remontent, que les commerçants soient prêts à leur payer plus cher. Et donc toute cette expérience qu'on a acquise en France sur la commercialisation et la vente des marchandises, mais que ce soit aussi bien des céréales que des animaux, eh ben on la partage avec les paysans malgaches pour que eux-mêmes puissent améliorer leurs conditions de vie.
Pouvez-vous nous citer d'autres domaines où vous intervenez ?
Au niveau national, mais même au niveau local, départemental ou régional, il y a de la sensibilisation auprès des responsables agricoles pour que, quand ils participent à des discussions sur l'évolution de l'agriculture en France, qu'ils prennent en compte les problématiques des pays du Sud.
Les paysans malgaches sont différents des agriculteurs français, mais ont des points communs.
Vos champs d'action sont très variés. À quels professionnels faites-vous appel pour réaliser vos missions ?
Un premier exemple de professionnel auquel on peut faire appel, je citerai tout de suite dans la foulée, bien évidemment, tous les paysans qui témoignent de comment on résout nos problèmes sur nos exploitations. Alors, je vais prendre un exemple tout simple. Je fais partie d'un petit réseau de gens plutôt orientés sur les grandes cultures, où on fait environ tous les mois et demi, pendant la saison culturelle, on fait ce qu'on appelle des tours de plaine. On va au bout des parcelles des uns des autres et on discute des problèmes techniques, des problèmes de désherbage, des problèmes de traitement des maladies ou des insectes qu'on a dans nos cultures, ou des problèmes d'implantation. Et c'est ce genre de rencontres en bout de champ qu'on partage avec les paysans malgaches. Et donc c'est à travers cet échange qu'ils ont mis en place tout un réseau de parcelles expérimentales, où quand ils sont groupés en organisation paysanne de base, souvent par affinité familiale, ils sont 8, 9, 10, 12, 15 paysans d'un même village à se grouper, et ils mènent ensemble des petites parcelles expérimentales où ils comparent différentes façons de mener leur culture. Voilà, donc c'est nous paysans qui avons échangé avec les paysans malgaches pour les guider dans ce choix d'expérimentation. Un autre exemple, le cœur d'AFDI, c'est quand même l'échange entre agriculteurs, même si on est de plus en plus épaulé par des gens du milieu para-agricole. On vit réellement nos problèmes, donc on est plus à même pour en discuter avec les gens qui ont le même type de problème dans d'autres pays du monde, même si c'est dans des conditions économiques complètement différentes. Je prends l'exemple du sud-ouest malgache. L'exploitation moyenne, elle fait 2 hectares. C'est une famille avec les parents, éventuellement les enfants, qui travaillent tout à la main avec une petite bêche qu'ils appellent langade. Donc c'est incomparable avec nos structures agricoles chez nous, où l'exploitation, enfin moyenne de Saône-et-Loire, j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais on peut facilement travailler 80, 100, 120, 150 hectares par personne, quoi. Donc c'est incomparable, on a beaucoup plus de matériel chez nous. Néanmoins, sur le fond, moi, je reste persuadé qu'on a quand même un certain nombre de problèmes communs et qu'on veut partager avec les paysans dans d'autres régions du monde sur ces sujets.
L'AFDI intervient dans les pays en voie de développement pour aider et former les paysans dans la gestion de leur exploitation. Leur action sur le terrain couvre un faible pourcentage du territoire. L'AFDI veut sensibiliser le grand public et les jeunes pour se développer et expliquer ses objectifs. Partons dans le Brionnais-Charolais, où les élèves de la MFR d'Anzilduc expliquent pourquoi ils préfèrent l'agriculture traditionnelle. Un sujet proposé par Samia et Jennifer.
Aujourd'hui, les agriculteurs français préfèrent pratiquer une agriculture traditionnelle plus adaptée à leurs besoins que le bio. Celui-ci apparaît plus onéreux. Les productions sont moins nombreuses. Que pensent les futurs agriculteurs du bio? Est-ce que cette pratique sera l'avenir de la profession? Des élèves en bac pro deuxième année de la MFR d'Anzy-le-Duc nous répondent.
Vous êtes élève à la maison familiale d'Anzy-le-Duc. Sur quel domaine est axée votre formation?
Notre formation est axée sur l'élevage bovin, car c'est la principale production de la région, c'est-à-dire comment gérer une exploitation dans son ensemble.
Est-ce que vous avez des cours sur la gestion d'une exploitation?
Nous avons des cours sur la comptabilité, l'économie, l'environnement et production animale et végétale.
Disposez-vous de modules sur les difficultés liées au métier?
Nous n'avons pas de modules sur les difficultés liées au métier, mais nous voyons la réalité des choses sur le terrain en stage.
Vos cours sont-ils plus axés sur l'agriculture traditionnelle ou sur d'autres techniques comme l'agriculture biologique?
Nos cours sont axés sur l'agriculture traditionnelle, même si certains modules nous sensibilisent sur des techniques plus biologiques.
Quel est l'intérêt de faire du bio?
Pour moi, il n'y a pas d'intérêt de faire du bio, parce que on a pas de produits phytosanitaires, c'est-à-dire tout ce qui est produits de traitement sur les céréales et tout. Ils produisent deux fois moins que nous et ils le vendent deux fois plus cher, donc je vois pas l'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt, ça revient au même.
Pensez-vous que le bio est adapté à tout type d'élevage et culture?
Par la force des choses, on est presque obligé de faire du bio parce qu'on est réglementé sur pas mal de choses. Déjà, on est réglementé sur l'épandage d'engrais chimiques. Bon, ça, on peut encore le comprendre, mais on est réglementé sur l'épandage de fumier, alors que l'épandage de fumier, c'est naturel. Le fumier, c'est naturel, qu'on le veuille ou non, c'est naturel. Et pour moi, on n'a pas réglementé ça, donc c'est du bio. Qu'on le veuille ou pas, c'est du bio, donc on fait plus qu'on veut sur nos propres exploitations.
Quel est l'enjeu sur le territoire du département?
Il faut défendre l'élevage, car c'est la plus grosse production du département. La race charolaise y est originaire. Il faut la défendre pour sa qualité de viande et pour conserver aussi nos origines.
En tant que futur jeune agriculteur, comment voyez-vous l'avenir sur votre futur territoire?
En tant que futur jeune agriculteur, je vois notre avenir en mauvaise voie. Actuellement, je ne vois pas comment nous pourrons nous en sortir. Les cours du marché sont trop bas par rapport aux charges qu'elles augmentent tout le temps. Donc nous survivons pour l'instant grâce aux primes qui, dans quelques années, vont être supprimées. Pour un jeune, cela va être de plus en plus dur, déjà qu'à son installation, il doit s'endetter pour se mettre aux normes. Nous pensons qu'en tant que jeune agriculteur, pour pouvoir vivre de notre métier, il faudrait que les prix de vente soient corrects, plus élevés qu'aujourd'hui.
Notre métier reste indispensable car la population devra toujours se nourrir, même si nous sommes de plus en plus ignorés par la société.
J'espère que notre métier va aller vers de meilleurs jours.
En tant que futur agriculteur, je vois mal l'avenir de notre métier, mais on a toujours espoir que les cours remontent et qu'on puisse en vivre.
Quand on aime son métier, on s'en sort toujours. En tout cas, on fait tout ce qu'on peut pour s'en sortir.
Pour moi, être agriculteur, c'est plus qu'un métier, c'est une véritable passion. Alors quand on aime, on ne compte pas, on continue.
Moi, je pense que pour les jeunes, cela va être de plus en plus dur, donc je ne sais pas ce que je vais faire plus tard.
Je pense que la conjoncture ne va guère évoluer, mais il va falloir faire avec et réussir à vivre quand même, car on aime notre métier.
L'agriculture bio peut poser problème à l'avenir au niveau de l'alimentation. Sera-t-elle suffisante pour nourrir tout le monde? Est-ce qu'elle sera moins chère? Les agriculteurs auront un choix difficile à faire entre ces types d'agriculture.
Certains agriculteurs utilisent des produits chimiques pour leur production. Depuis quelques années, des exploitants s'orientent vers une agriculture biologique. Pour répondre à vos questions, Chloé et Céline ont rencontré Madame Châtelain, gérante d'un magasin bio à Laclette. Le bio existe depuis 90 ans, lancé dans les années biologie. L'agriculture biologique est réputée pour fournir des aliments sains, sans hormones de croissance ni de résidus de pesticides, et préserver l'environnement. Mais il lui est souvent reproché de ne pas être assez productive. Trop cher et un investissement trop important pour les producteurs, les produits bio ne seraient pas accessibles aux plus modestes. En 1991, un règlement européen de l'agriculture biologique réservé aux productions végétales. En 2002, il a été complété pour les productions animales. Le 1er juillet 2010, un nouveau logo européen vient remplacer le logo français AB. Depuis toutes ces années, le bio ne cesse de se développer. Madame Châtelain, gérante d'un magasin bio, nous définit ce qu'est le bio.
Alors, donc un produit issu de l'agriculture biologique, c'est un produit qui ne reçoit pas de pesticides, de produits de synthèse. Voilà, ils sont traités avec des plantes. Et normalement, c'est aussi pour respecter l'environnement également.
Quels sont les différents types de produits bio qui existent dans les commerces?
Alors, ils sont très nombreux. Il y a tout ce qui est toutes les céréales, tous les fruits, légumes, tout ce qui est aussi la viande, les œufs. Enfin, c'est très varié. On peut trouver tout en agriculture biologique.
Vous nous parlez des différents produits bio qui existent. D'où proviennent-ils?
Alors, locaux, il y a pas beaucoup. En fruits, légumes, il n'y a pas beaucoup dans la région. J'aimerais bien en avoir un petit peu plus. Bon, je travaille avec une maison qui est à Carpentras où ils ont plus de 30 fournisseurs autour de leurs locaux. Autrement, après, il y a des produits qui viennent de l'étranger. Et au niveau fruits et légumes, moi, j'essaye d'acheter français. Je préfère. Et après, il y a certaines choses qu'on ne peut pas. L'Italie encore, mais j'essaye d'acheter le plus possible français.
Les produits de l'agriculture biologique sont associés à un label. Quelles sont les démarches pour l'obtenir?
L'agriculture biologique, c'est contrôlé donc par EcoCert. Donc un agriculteur, normalement, il est contrôlé tous les ans par ce certificateur, organisme. Après, pour faire de l'agriculture biologique, il faut 3 ans en conversion pour pouvoir vendre des produits en agriculture biologique.
Par qui est-il délivré?
Alors, il y a plusieurs organismes. Donc là, je parlais d'EcoCert. Il y a Nature et Progrès également qui existe. Après, il y a aussi la biodynamie. Donc, c'est encore un autre logo, quoi, qui est encore plus fiable.
Ce label est délivré par EcoCert, Nature et Progrès, et par biodynamie. Il permet de protéger la terre et les êtres humains et d'utiliser moins de pesticides. Parlons maintenant de la répartition des producteurs bio à travers le monde. Quels sont les pays qui utilisent le plus ce mode de culture?
En France, on commence à le développer. L'Italie, je crois, est en avance. L'Allemagne, l'Autriche aussi, un petit pays qui fait beaucoup. Et après, il y a aussi tous les autres pays, mais il n'y en a pas énormément, tous les pays comme l'Afrique, tout ça. Il y en a un petit peu. On arrive à faire justement un commerce équitable, justement, on en parle un petit peu. Bon, la France, je ne sais plus à quel niveau elle est située, elle. Mais c'est pas assez.
Le bio se développe dans le monde, dans certains pays comme la France et l'Afrique, le bio commence à évoluer. L'ancien logo AB comportait plus de 95% d'ingrédients bio. En 2011, la marque collective Biocohérence, qui garantit une bio à l'échelle plus humaine, fera son apparition. Les Français mangent plusieurs fois par jour, mais font attention à leur alimentation. Les enfants prenant leur repas dans les cantines en collectivité apprennent ce qu'est l'équilibre alimentaire. Voyons comment cela se passe dans les cuisines en collectivité. Cassandra s'est rendue à la MFR de Laclette pour interroger Alice, cuisinière de l'établissement.
Actuellement, beaucoup de moyens sont mis en œuvre pour favoriser l'alimentation des Français. On peut par exemple voir des spots publicitaires sur une alimentation saine et équilibrée. Le gaspillage prend aussi une grande place dans l'alimentation des Français. Un quart de la nourriture produite sur la planète est jetée sans être consommée. En 2009, en France, plus de 92 000 tonnes de produits alimentaires ont échappé à la destruction. Au total, 3,3 millions de personnes ont eu recours à une aide alimentaire. Comment s'organisent les repas dans un établissement? Comment est géré le gaspillage de la nourriture? Prenons l'exemple de la maison familiale de Laclette. Alice, cuisinière de la collectivité, nous parle de l'équilibre alimentaire.
Eh bien, dans l'équilibre alimentaire, c'est-à-dire dans chaque repas, vous devez avoir des féculents, des légumes, des fruits. Et c'est la meilleure chose dans l'équilibre pour vivre, pour la vie de tous les jours. C'est mieux, sinon on risque d'avoir des carences ou manque d'énergie aussi, parce que tout, c'est tout un système. Hein. C'est vrai que l'alimentation est là pour justement essayer de tout simplement avancer. Marcher, courir, réfléchir, c'est tout. Hein. C'est pas que... C'est très important, l'alimentation.
Vous travaillez en collectivité. Quels sont les moyens dont vous disposez pour faire respecter cet équilibre alimentaire?
Les moyens, eh bien, ça, c'est, disons, que nous, dans nos repas, à la base, c'est ce que je disais, on a des bases, c'est-à-dire qu'on doit faire une entrée, on doit faire un plat avec un accompagnement, fromage et dessert. Souvent, dans certaines collectivités, vous n'avez même pas les deux au niveau fromage ou dessert. Vous avez ou l'un ou l'autre, je vais dire. Et nous, à chaque fois, vous avez les deux. Donc, il faut se dire que c'est pas mal.
Voici quelques conseils pour l'élaboration de vos repas pour qu'ils soient plus équilibrés.
En entrée, si une entrée est composée de légumes, une salade, tomate, je vais mettre une viande et après, ce sera un féculent parce que vous aurez eu les légumes à la base. Et vice-versa, si en entrée, vous avez des féculents, c'est-à-dire une salade de lentilles, une salade de pâtes, une salade de riz, je mettrai une viande et après, je mettrai un légume, des haricots, des chou-fleurs, des choses comme ça, pour équilibrer vos menus.
Comment conciliez-vous quantité et variété des repas?
Ah, ça, c'est... il faut avoir un petit peu des idées, ça, c'est sûr, que pour varier, il faut avoir des idées, il faut vous faire des nouvelles choses. Et souvent, vous revenez souvent, comme je dis, au traditionnel. N'est-ce pas? On essaye des fois de vous faire des nouvelles choses. La semaine du goût est faite pour ça. Cette année, vous étiez là pour la semaine du goût. Ouais, donc, vous savez que j'ai arrêté en milieu de semaine et ne goûtais à rien. J'étais moi-même désolée. Bon, après, j'ai continué pour les professeurs parce qu'ils ont beaucoup apprécié. Mais vous n'avez pas du tout apprécié. Alors, c'est vrai, quand on cuisine pour 100 personnes et qu'on voit que ça revient et que j'ai pas tout mélangé, j'ai essayé de pas mélanger, mais il y avait des bonnes choses quand même. Mais assez bien. Bon, après, il y en a sûrement qui ont goûté. On va pas dire que c'est du 100%. Mais c'est vrai que c'est désolant. Voilà. On revient toujours. Alors, c'est vrai qu'on va pas gâcher la marchandise. Donc, c'est malheureux. Mais par rapport à ça, moi, je me rends compte que je veux bien faire de nouvelles choses, je veux bien créer des nouvelles choses, mais vous êtes là, plus ou moins, à regarder ça d'un œil en voulant dire « Ah, qu'est-ce que c'est que ça ?» Mais c'est pas tout le monde, hein. Je dis pas que c'est du 100%, c'est pas vrai.
La cuisine en collectivité peut générer plus de déchets qu'une famille. Que pensez-vous du gaspillage?
Bonne question. Alors, au niveau du gaspillage, celui que je trouve le plus, c'est le pain que vous mettez dans les poubelles. Ça me fait mal au cœur. Je suis sans arrêt là à vous dire, faites attention. Quand vous prenez un morceau de pain, finissez-le. Ou alors, si vous pouvez pas tout manger, vous le coupez en deux et vous mettez le reste dans la corbeille. C'est simple. Après, bon, elles vont me dire, le pain est mouillé, un verre d'eau, c'est renversé. Ok, mais des morceaux de pain qui sont pas finis, ça, c'est pas bien. Moi, je dis souvent, il y en a tellement qui sont là à avoir de la peine à gagner son pain. C'est la base, le pain. Donc, voilà. Après, c'est vrai que dans les plats, il y a une chose que j'ai remarquée, c'est qu'au niveau du gaspillage, si je vous amène un plat sur table, qu'il y en a une qui n'aime pas, tout le monde, enfin, vous n'allez pas en manger. Toute la table ne va pas en manger. Par contre, si quelqu'un aime, deux ou trois qui aiment, tout le monde va en manger. Et je vois des plats revenir entiers comme des plats revenir vides. Donc, voilà. Après, sur l'état, je pense qu'il doit y avoir des personnes qui sont plus ou moins, je ne veux pas dire meneuses, mais qui gèrent ça. On va dire, oh, ça, c'est pas bon, j'aime pas. Alors, automatiquement, les autres sont là à côté, ils ne disent rien parce que c'est peut-être des plus petites qui sont craintives Et quelquefois, je trouve ça... Ouais, c'est sûr, je vois des plats qui sont vides, d'autres qui vont aller chercher sur les tables, parce que bon, ils aiment ça et ils vont chercher sur les tables. C'est très bien, au contraire. Au contraire. Parce que c'est vrai que quelquefois, vous allez dire, vous n'avez pas assez. C'est pas que vous n'avez pas assez. Mais c'est parce que vous êtes peut-être plus gourmand que la normale et d'autres vont pas manger. Donc, je vais pas mettre des gros plats alors que je sais pas où ça va sur les tables. Donc, c'est vrai que vous venez en chercher. Des fois, vous demandez sur les tables. C'est très bien. C'est comme ça qu'il faut faire. Ça, c'est vrai. C'est sûr.
En collectivité, il n'est pas toujours facile de cuisiner au goût de chacun, de faire découvrir de nouvelles saveurs et de préparer de nouveaux plats.
Bien, c'est ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire de faire des choses que vous aimez de façon à ce que vous soyez à table et que à table hein, vous mangiez avec appétit et que voilà. Donc je vais un peu quand même dans votre sens. Après, c'est vrai qu'il faut faire aussi d'autres choses. Il ne faut pas non plus faire que parce qu'à ce moment-là, on ferait que des pâtes, des nouilles, du riz, des nuggets, des cordons bleus.
Pour avoir une bonne hygiène de vie et une bonne alimentation, il faut donc manger équilibré et surtout varier les repas. Ne pas manger trop gras, trop sucré ou trop salé, ce n'est pas bon pour la santé. Il faut aussi éviter au maximum le gaspillage de la nourriture. Trop de personnes dans le monde entier meurent de faim chaque jour.
Nous avons abordé l'alimentation sous toutes ses formes. Un large domaine que nous avons choisi de décliner sous différents thèmes, comme l'agriculture dans les pays en voie de développement et l'équilibre alimentaire et le gaspillage. Merci à Chloé, Jennifer, Samia, Cassandra et Céline qui ont réalisé les interviews et reportages. C'était l'alimentation sous toutes ses formes. Merci de nous avoir écoutés.